Sentière non plus.
Pour assister à l'émission, rendez-vous demain à partir de 10h30 à l'Opéra National de Lorraine, place Stanislas à Nancy.
Chaque fois que je viens, entre Daniel et moi, c'est de plus en plus fort, et comme c'est la 64e fois, je suis conquise.
On va tous y passer.
C'est la police maintenant, là.
Du lundi au vendredi sur France Inter.
N'hésitez pas à venir nous voir.
À partir de 11h. France Culture Papier numéro 7, en kiosque dès maintenant. En avant-première de sa diffusion sur France Culture, découvrez l'entretien exclusif d'Éric Orsenna avec Jean-Michel Jean. L'académicien, qui se révèle en Tintin flingueur, enquête sur un monde qu'il affectionne autant qu'il en dénonce les injustices. France Culture Papier, première radio à lire, numéro 7, en kiosque dès maintenant. France Culture, une radio du groupe Radio France.
Radio France, partenaire de la 30e édition des Journées européennes du patrimoine. Les 14 et 15 septembre, le ministère de la Culture et de la Communication vous invite à fêter le centenaire de la loi sur les monuments historiques. Partout en France, plus de 16 000 monuments vous ouvrent leurs portes, samedi 14 et dimanche 15 septembre. Retrouvez les Journées européennes du patrimoine sur radiofrance.fr.
France Inter.
La voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet et c'est maintenant sur Inter.
Je rebondis sur ce que je viens d'entendre à France Info. Albert Jacquard nous a quittés. Voilà, j'avais eu la chance, comme quelques autres, de le côtoyer. C'était au Square de la Réunion, fin des années 80, et nous battions pour ce qui ne s'appelait pas encore le DAL, c'était le Comité des Mal Logés. Un certain Jean-Baptiste Hérault, d'ailleurs, en était aussi l'une des chevilles ouvrières. Il n'était pas seul, si aujourd'hui on entend surtout son nom. En tous les cas, M. Jacquard, entre autres, faisait partie des gens qui nous ont soutenus. Et c'est important de se rappeler de ce que cet homme a dit, a écrit. Je pense que parmi les justes, on ne parle pas suffisamment des Stéphane Hess, des Albert Jacquard, et j'en passe. On parle plus volontiers de traders ou de magouilles politiciennes de tout genre. J'espère que là-bas, si j'y suis, fera un spécial Albert Jacquard. Allez, Kenavo.
Ouais, salut Daniel. J'ai un petit message là, pour nos dirigeants qui cherchent un petit peu d'argent pour nos retraites. On est bien dans une période où on parle de solidarité. Nos stations de péage sur les autoroutes qui se gavent, et encore le mot est faible, en plus certaines sont cotées en bourse, ne serait-ce que 10 centimes par passage, on aurait déjà de quoi payer les retraites. Et en plus, autre chose, je viens de m'apercevoir en regardant un ticket de péage que la TVA là-dessus, elle est à 19,6. Moi, je prends l'autoroute, c'est pour mon boulot, c'est pas du luxe. J'ai pas le choix, sinon je vais arriver à mon boulot tous les jours en retard. Salut Daniel, sois force.
Salut Daniel, comment ça roule? Nous, ça marche depuis 8h ce matin. C'était pas pour rire. On est bien parti pour la Drôme avec nos brebis. Première étape, soirée autour du feu, heureux échanges et nouvelles rencontres avec les marcheurs qui nous accompagnent sur la transhumance. Pour info, samedi 14, rendez-vous à Prunes, dans l'Aveyron, pour un débat et concert. À demain sur les chemins et bon courage pour les autres. Merci d'avoir fait passer l'info l'autre fois.
Quelle surprise, la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge était due à des causes techniques et notamment au très mauvais état de la voie. Plus de 40 anomalies ont été repérées par les enquêteurs durant l'enquête et le rapport vient d'être rendu. Bien entendu, tout cela n'a absolument rien à voir avec la privatisation rampante de la SNCF.
Merci France Inter de supprimer le vendredi là-bas si j'y suis. Ça nous fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. C'est de l'humour.
Merci pour ces messages, chers AMG. D'abord, salut et adieu à Albert Jacquard, qui était un ami, un vieil ami de là-bas si j'y suis. Je me souviens de leur reportage rue du Dragon à différentes reprises. Il était venu dans cette émission. Salut à ce lutteur de fond. Lutteur de fond, bah hier on évoquait Salvador Allende. Lutteur de fond, mais il y a un moment où ces luttes, quelque chose qui en ressort plusieurs années plus tard. Et on ne perd pas toujours, c'est pas vrai qu'on perd toujours. Il y a un moment où ça revient à la surface. Et aujourd'hui, c'est les Conti. Vous vous souvenez, fin août, comment soudain, il y a eu cette victoire des Conti. Le 30 août, le Conseil des Prud'hommes de Compiègne a invalidé les 680 licenciements des Conti pour défaut de motifs économiques sans cause réelle et sérieuse. Donc une victoire, le résultat d'une très longue lutte tenace et solidaire contre la criminalité financière, mais on va voir que c'est une victoire, bien sûr, mais une victoire un peu amère et une victoire qui vient un peu tard. C'est notre sujet aujourd'hui. Je voudrais rappeler ou vous informer que nous serons ce samedi à la Fête de l'Humanité. À partir de 17h, de 17h à 18h30, là-bas, si j'y suis, je n'arriverai plus, bonjour, sera sur le stand de Radio France avec des invités, des musiciens de 17 à 18h30, hein, je ne me cours pas, c'est bien 17, 18h30. Voilà, les Conti, la meilleure victoire pour les Conti. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à toutes et tous. Pour compléter l'émission d'hier sur le Chili, je recommande vivement la lecture de deux ouvrages qui viennent de sortir, rédigé par Franck Godichaud, qui est un spécialiste du Chili et des mouvements sociaux en Amérique latine. Le Chili 1970-73, 1000 jours qui ébranlèrent le monde, aux éditions des presses universitaires de Rennes. Et puis un petit livre qui s'appelle Venceremos, analyse et documents sur le pouvoir populaire au Chili, aux éditions Sileps, le deuxième.
Oh, oh, balam, 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 balam. Baron. C'est quoi ça? Bah c'est la locomotive radioactive qui vient de passer là. Locomotive d'art. Oh 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 oh. Ding 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 ding. Là là, regarde, vise un peu la garde barrière. Oh là là, elle est sacrément roulée celle-là. Oh 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 oh. Baron.
Nous affirmons le refus de la fermeture du site de Continental.
Je me rappellerai toute ma vie, hein,
Le 11 mars 2009.
Continental a fermé 30 usines en 10 ans. Ils sont capables de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent.
Là, tout est prouvé qu'il n'y a jamais eu de raison économique. Et le combat continue pour pas loin de 500 personnes sur le carreau. Continental doit assumer la classe sociale.
L'usine est implantée ici depuis 75 ans. Ça fait partie du patrimoine de la région.
On ne reviendra !
C'est une victoire, mais ça laisse quand même un goût très 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 amer.
Donc on continue à se battre.
On peut les faire bouger à condition de créer un rapport de force.
Continental a fait des milliards de bénéfices depuis.
Le problème, c'est qu'ils sont tombés sur un os à Clairoy et on s'est battu. Et là, c'est le plan social le plus cher de l'histoire de Continental.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, je suis avec Antoine Chao. Amère victoire pour les Conti.
Flight number 2, arriving from New York.
On est au bord de l'ancienne nationale qui va de Compiègne à Saint-Quentin, la route pour aller dans le nord, quoi, pour aller en Belgique. Et en face de nous, il y a l'usine Continental, où les Conti ont mené 4 ans de lutte maintenant, où toujours il y a une permanence syndicale qui se tient sur le parking de l'usine. Mais avant d'aller retrouver Pierre Sommet, qui assure cette permanence syndicale, on va aller boire un café au Bon Coin, Bar Brasserie Tabac. Sur la vitrine, il y a marqué QG Conti, voilà, c'était le QG des Conti en 2009 et 2010. Et bien après, puisque c'est encore ici que se retrouvent de temps en temps les ex-salariés, aujourd'hui en grande partie au chômage. Alors on va retrouver Jackie qui est le patron.
Guten Tag, Condesen. Le moment que nous vivons ici ce matin est un moment historique. Nous sentons que nous sommes tous plus forts qu'hier, nous les travailleurs, ceux d'Allemagne, comme ceux de France.
Donc, 52% de bénéfices. L'équipementier allemand Continental a fait état d'un bond de 52% de son bénéfice. Jeudi dernier, nous apprenait le point en mars 2013. Un bénéfice net de 1,88 milliard d'euros. Contre 1,24 milliard d'euros l'année précédente, soit 640 millions d'euros de plus de bénéfices. Continental avait déjà annoncé en janvier une hausse de 7,3% de son chiffre d'affaires à 32,7 milliards d'euros. Et pour 2013 et les années suivantes, notre sentiment dominant est la confiance, a commenté le patron Elmar Degenhardt. Des bonnes nouvelles alors pour Conti, oui, des bonnes nouvelles et des bonnes nouvelles aussi pour les salariés. Le 30 août dernier, vous avez compris, victoire pour les salariés de Continental. Le Conseil des Prud'hommes de Compiègne invalide les 680 licenciements pour défaut de motifs économiques sans cause réelle et sérieuse. Voilà, donc tout va bien. C'est une victoire qui vient un peu tard. Parce que aujourd'hui, l'usine est fermée. Encore 500 des Contis sont au chômage et on ne compte plus les divorces, le désastre social et les suicides. 8-9 suicides. Et puis autour, une région qui s'enfonce. Certes, l'entreprise va faire appel après cette victoire, cette amère victoire des Contis. Percevront-ils, oui ou non, les 30 à 36 mois d'indemnité complémentaire promis ? Un sursis, mais pas une solution. La crise économique a servi de prétexte pour licencier. Il faut une loi pour interdire les licenciements boursiers. C'est là-bas si j'y suis, jusqu'à 16h ou presque, amère victoire pour les Contis.
Nous affirmons le refus de la fermeture du site de Continental.
N'aie pas peur, tout est normal. Mais le problème, tu vois, c'est qu'il y a trop de social. Ils nous ont vendu le bout du tunnel. Même aux Jaurès, Jaurès comme modèle.
Ils nous ont vendu la fin de l'histoire. Ils nous ont vendu la fin de l'histoire.
Toujours la même équipe, on les changera pas. Jamais la Conti, ils seront toujours là. Yep.
Ils nous ont répondu.
Voici d'année son salaire et n'en parlons plus.
Bienvenue chez les Contis. Hein. Ce qu'il en reste.
Ce qui reste des Contis, ouais.
Bonjour.
Alors, Jackie, ici on est au Bon Coin et on est à côté de l'ancienne usine Continental.
Hein. On la voit d'ici, regarde. Ouais.
Alors ça a été, j'imagine aussi, un des lieux de rencontre, un QG.
Malheureusement, ouais. Je dirais malheureusement, évidemment, ouais, c'était le QG comme on l'a nommé. Et j'aurais préféré que ça n'arrive pas en même temps. Dès les premières heures et la réunion pour le comité de lutte là, avec les élus, c'était le rendez-vous inévitable avant d'aller à l'usine. Et puis les manifs, parce que moi je participais aux manifs avec les copains. Du reste, il faut tirer un grand coup de chapeau à mon épouse qui a travaillé seule pendant pratiquement 6 mois. Après, bon, les manifs, c'est plus espacé, mais jusqu'au 21 juin, je crois, elle ne m'a pas vu beaucoup. Hein. J'étais dans la rue avec les comptis.
C'était en 2009, hein ?
Mmh, bien sûr, hein. J'ai pas vu passer ces 4 ans du reste. Hein.
Et vous avez rencontré comme ça la lutte syndicale à ce moment-là, ou vous étiez déjà...
Non, je... Ouais. moi, c'était dans moi, ça. Ils m'ont simplement rajeuni. Hein. Enfin, je veux dire, malheureusement, je dis toujours malheureusement quand je parle des événements, parce que j'aurais préféré que tout ça se produise pas, qu'on soit pas là ensemble, que les copains aient encore du boulot, puis moi, une activité un peu plus florissante. Non, c'était dans moi, ça. Du reste, combien de fois on m'a demandé si c'était un café politique, ici. Non, moi j'ai simplement remis les baskets pour sortir dans la rue, mais les idées, elles étaient là. Hein. Ça, y a pas de problème. Hein. Je connaissais plein de contis parce que forcément, je suis du cru, j'avais des camarades avec qui j'étais allé à l'école, au lycée, au collège, et puis j'avais ma clientèle aussi. Donc forcément, je connaissais beaucoup de monde. Et tous ceux que je ne connaissais pas, comme Xavier, que j'ai appris à connaître, malheureusement, le 11 mars 2009. Merci.
Voilà. Et maintenant, c'est comment alors le Bon Coin ?
C'est comme ça. Tout seul, tous les deux, boire un café, malheureusement. Ouais. Mais l'essentiel, c'est les copains qui n'ont pas retrouvé de boulot, c'est cela qu'il faut aider.
Et les copains, ils reviennent alors ?
Bien sûr, ouais, notamment quand il y a des réunions, des AG, le tribunal cette semaine, ouais. Et puis bon, le mec qui passe, il a vécu la lutte ici au Bon Coin, il s'arrête, dire bonjour, un coup de klaxon, même si c'est plus, je veux dire, il n'y a plus autant d'euphorie, hein, parce que tout le monde a essayé de reprendre sa vie, parfois... difficilement, mais tout le monde s'est éparpillé. Mais il reste les souvenirs, les bons souvenirs.
Il y a un panneau de photos là. Hein,
il y a un panneau et puis un petit musée derrière.
Il y a un petit musée derrière.
On pourra visiter. Ouais, c'est les souvenirs de lutte. Hein.
Et une affiche du film La Saga des Contis, voilà, au cœur d'une révolte ouvrière.
Oui.
Et c'est Jérôme Paletot qui est voisin aussi.
Oui, hein. Voisin, oui. Ouais. Il était comme moi, il était sur place. Hein. Évidemment, le 11 mars, quand tu passes devant l'usine et que tu vois ça, tu dis qu'est-ce qui se passe. Et comme il est caméraman de métier, enfin producteur, il faut que je me mobilise.
Alors, il y a le premier slogan, c'est notre cri de guerre. Tous ensemble. Tous ensemble. Hey
La Saga des Contis, un film de Jérôme Paletot.
On a décidé d'aller faire un train pour un homme. Ça a été un truc de fou. Au départ, à la SNCF, ils nous avaient demandé 150 000 euros. On a réussi à descendre à 55 000 euros. On a reçu beaucoup d'argent de l'extérieur, on a pu se payer ça. Un train spécial, Compiègne, Hanovre, 1200 personnes. Ce qu'on a fait, ça s'est jamais fait. Des ouvriers d'un pays qui vont manifester avec d'autres ouvriers dans un autre pays. Le seul bémol, c'est de voir qu'il y a un truc comme ça exceptionnel, du jamais vu. Il n'y a eu aucune fédé, aucune confédération qui nous a accompagnés. Ils ont raté ça.
Alors il y a un petit musée là, donc c'est l'arrière-salle du bistrot, hein, c'est ça. Ouais. Alors là, il y a continent, bon, il y a le drapeau continental.
Ouais, alors ça c'était affiché sur le bar. Tu rentrais dans le bar, tu voyais tout de suite continental et en dessous j'avais marqué la honte. Parce que j'estime que c'est une honte.
Alors ça ressemble un petit peu à une salle de supporters de foot, mais là c'est les supporters syndicaux, quoi.
Voilà,
de la lutte syndicale, hein, c'est un peu ça, quoi.
Et ça c'était ma veste que je ne quittais pas quand j'allais à la manif avec eux, qui m'avait été offerte par un copain de chez Conti.
Continental Clairois, la honte.
Ouais.
Il faut mettre à bas la dictature des capitalistes sur l'économie.
Au gré des manifs, les camarades du NPA ou du LO qui me collaient des trucs.
Il y a les copains de Goudière aussi qui étaient venus en soutien.
Oui, les copains de Goudière, les copains de Philippe Zreux qui vivaient aussi à la même époque une situation difficile. C'était la grande folie des licenciements.
Là, il y a une collection de casquettes.
Qui m'ont été offertes par les copains, oui. Ça, c'est les gamelles. Dès les premiers jours, on a fait des quêtes pour alimenter le comité de lutte. pour payer les avocats. Ça, c'était la mienne. Et j'étais assez fier parce que quand ils ont ouvert les gamelles, c'était dans celle du Bon Coin qu'il y avait la meilleure recette.
Et voilà donc le courrier Picard.
Les dernières nouvelles, donc le résultat du
tribunal. Une petite revue de presse, voilà. Courrier Picard, la victoire arrive trop tard pour les Conti. Clairois, les prud'hommes de Compiègne ont annulé vendredi 30 août le licenciement de 683 ex-salariés de Continental.
Ça s'ajoutait aux deux cartons de presse avec les premiers quotidiens dès le 11 mars. Ouais. Et quand je serai à la retraite, je m'amuserai à classer tout ça mois par mois, année par année.
Voilà. C'est probablement à partir de ce jugement Continental,
Fiodor Ilov,
de nouvelles armes qui sont données aux salariés, qui se battent partout dans le pays.
Avocat des salariés de Continental.
Pour tenter de mettre en échec des décisions de même nature.
30 août 2013.
C'est-à-dire des groupes qui veulent détruire des emplois avec comme objectif d'en tirer davantage de profit. Si on voulait vraiment réparer le dommage subi par ces salariés, la seule manière de le faire, ce serait de leur redonner du travail.
C'était vendredi 30 août que donc, le conseil des prud'hommes a rendu son jugement.
Ouais.
Alors, ils sont venus fêter ici la bonne nouvelle.
Oui, bien sûr. Xavier est venu, Marie-Laure, leur avocate, certains copains, bien sûr. Mais il n'y a plus cette euphorie des premières années où systématiquement on revenait au Bon Coin.
Une victoire amère quand même, comme disait justement Xavier et Mathieu.
Tout à fait, ouais, bien sûr. Mais c'est une victoire. Je veux dire, c'est, pour moi, c'est une victoire morale. Ça leur rend leur dignité. Je veux dire, c'est comme ça que je le ressens. Et j'espère qu'au bout, il y aura une victoire financière. Faut pas se leurrer, Conti c'est une société qui gagne beaucoup d'argent, je vois pas pourquoi ils seraient pas condamnés à des indemnités envers les employés. Je suis content pour les copains et les 600 et quelques qu'ont porté le P au prud'homme, ils ont parfaitement eu raison. Et ça leur rend un peu de leur dignité, je veux dire, d'ouvriers, je veux dire, qui ont été sacrifiés. Non, franchement, je suis content de la nouvelle. La reconnaissance d'un mensonge de la part de Conti. Aujourd'hui, ce qui me pèse le plus, bon, c'est de ne plus voir les copains, évidemment, mais ce qui me pèse le plus, c'est ce silence qu'il y a autour. Parce que quand l'usine est en activité, il y avait un bruit, il y avait une ambiance, il y avait du trafic. Aujourd'hui, c'est calme. Le matin, je continue à ouvrir à 6h parce que j'ouvre à 6h pour l'usine à l'époque. Je continue à ouvrir à 6h, mais j'ai largement le temps de boire mon café, de lire la presse locale avant l'arrivée des premiers clients.
On l'a appris il y a quelques minutes, rebondissement dans le dossier Continental. Le conseil des prud'hommes de Compiègne vient d'invalider le licenciement de près de 700 anciens salariés de l'usine Continental de Clairois dans l'Oise.
Et avec nous en direct Xavier Mathieu, bonjour. Vous êtes, on le rappelle, leader CGT de chez Continental. Clairement, c'est une première victoire, la victoire que vous attendiez depuis des mois.
ITélé, 30 août 2013.
C'est une victoire, mais ça laisse quand même un goût très 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 amer. Il n'y avait aucune raison économique de fermer cette entreprise, qu'elle était plus que viable, que Continental a fait des milliards de bénéfices depuis, pendant. Voilà, ça crevait les yeux à tout le monde, sauf à quelques personnes. Et ça laisse un goût amer, parce qu'il y a entre 500 et 600 Conti qui sont à Pôle emploi aujourd'hui. Il y a eu des suicides, il y a eu... C'est douloureux. C'est une sorte de rémission pour les gens, C'est comme un assassinat, c'est comme ils avaient besoin de voir condamner leur bourreau. Je crois que c'est important, ça fait du bien au moral, même si on l'a un peu en travers de la gorge.
Elle gronde, grogne, elle est prête à se répandre, à fracasser le silence, elle sait comment se faire entendre. Elle me transit l'effroi, très vite je ne sens plus mes membres, je tremble, confus, impossible de me détendre. Je m'abandonne dans les méandres de ses reflux. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même depuis notre entrevue. Je ne connaîtrai le repos qu'une fois son appétit repu. Enfin je cherche le repli, mais je n'ai subi que des refus. À chaque fois qu'elle revient, c'est pour faire pencher la balance. Quand plus rien ne me retient, quand je subis son influence. La science de la furie, l'art de la guerre réveille tous mes démons. Si je l'écoute, si je coopère, mais si je la contiens, si je la domine, si j'en fais mon allié caché sous ma poitrine. C'est fou la force qui se dégage de ses remous quand elle est légitime et que l'agneau défie le loup. Elle éclate au grand jour et donne le change de ses sévices. Elle coupe court au long discours et tord le cou de l'injustice.
C'est la bête noire qui veut la tête du tortionnaire. Ce plat qui se mange froid. Cette hache que je déterre.
En face, il y a le fantôme de l'usine Continentale. Alors on voit les grands bâtiments siglés Continentale et Uni-Royale. Et un peu plus loin, à quelques centaines de mètres, la tour qui ressemble à un château d'eau à côté de la cheminée, qui ne fume pas, bien entendu.
La cheminée ne fume plus et le silence s'est fait, mais ils ont tenu 4 années. 4 années à tenir alors que le silence gagne, que le désert avance. C'est pas seulement l'usine, bien sûr, hein, c'est toute la région, c'est tout un bassin qui s'effondre et qui s'efface et qui est gagné par la friche. Mais ils ont tenu. Ils ont tenu le coup, que ce soit Jackie dans son bistrot au Bon Coin, que ce soit les uns ou les autres qui ont réussi à tenir avec cette victoire qui arrive trop tard, qui reste avec quelque chose qui reste en travers de la gorge, on comprend bien. Mais voilà, la dignité recouvrée, ça fait du bien au moral, dit-on. Alors voilà, on va dans cette Algeco où Pierrot et quelques autres ont tenu le coup.
Et derrière la voie ferrée, l'usine fermée, pas un bruit, il y a quelques voitures devant parce qu'il y a un gardiennage. Et en face de l'usine, de l'autre côté de la D61, il y a les locaux syndicaux. C'est un Algeco là qui est posé à côté du bâtiment qui accueillait l'ancienne cantine des salariés. Un Algeco qui abrite le comité de lutte. Et normalement, Pierre Sommet, dit Pierrot, qui continue la permanence syndicale.
Salut.
Ça va?
Ouais, ça va.
Jean-Claude.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Alors ici, c'est votre permanence syndicale, c'est ça?
Ouais, c'est nos locaux syndicaux, ouais. Donc où on est tous les jours.
C'est eux.
Ouais, c'est eux, mais bon, maintenant...
C'est le CE, comité d'entreprise.
On est représentant du personnel, on est élu dans différentes organisations syndicales, mais le combat, c'est le comité de lutte.
Alors vous êtes toujours en poste, c'est
tout,
ça?
Tout le temps, ouais. Bah, depuis l'annonce de la fermeture, on est tous les jours là, bah, pour répondre aux gens qui ont des soucis, parce que... Il y en a quand même, à l'heure actuelle, encore 475 qui sont à Pôle emploi. Donc, et dans l'année qui suit, il y en a 100 qui vont tomber à la SS. C'est-à-dire de août à août de l'année prochaine, 100 personnes qui vont vivre avec 15 € par jour. Donc, il faut qu'on soit là pour aider ces gens-là et puis pour toutes les démarches qu'il y a à faire, quoi. Sinon, nous, on est licenciés aussi. Hein. On a 80% du salaire, comme tous les gens de Continental ont eu pendant leur congé de mobilité. C'est-à-dire que normalement, le congé de mobilité sert à bah, se former. Sauf que nous, le temps qu'on passe là, on passe pas en formation, à se reformer pour de nouveaux postes. Chose qu'on ne peut pas faire, vu que si on lâche l'affaire, bah, Continental va être heureux, il n'y aura plus personne, et puis on n'aura plus de moyens de pression contre eux. Donc on est là tout le temps. Et il se finit au mois de... février 2014, et on va repartir avec aucune formation, rien du tout, quoi. Mais bon, on peut pas lâcher l'affaire, quoi. Vu la catastrophe sociale qu'il y a, on peut pas laisser tomber.
C'est toi qui les ouvres ?
Donc ça, c'est le rendu du conseil de prud'homme de Compiègne.
Ouais.
Conseil de prud'homme, 2 rue du Dahomey. 60 207 Compiègne. Mmh. Voilà, jugement du 30 août 2013.
Ça, c'est notre fierté aussi. Hein. Ce combat de tous les contis, eh ben voilà, ils payent. Et puis ça montre à tous les ouvriers, quand ils veulent fermer les usines, qu'il ne faut pas baisser la tête, il faut relever les bras et puis se battre jusqu'au bout, quoi. Parce que malgré que ce sont des multinationales multimillionnaires, eh ben voilà, ils sont condamnés quand même. Il n'y avait pas de raison économique à la fermeture de l'usine, ce qu'on se bat depuis le début. C'est Continental AG, l'Allemagne, qui a décidé de la fermeture de l'usine, ce qu'on clame haut et fort depuis le début. Et aussi sur les reclassements, comme quoi ils ont mis de l'argent dans les reclassements, mais ils n'ont pas fait leur boulot de reclassement. C'est une grande, grande victoire. Hein. On avait déjà eu un jugement similaire au tribunal d'Amiens. Donc on avait déjà gagné pour les 22 salariés protégés leur réintégration. Bon, ça se fait pas, hein, parce que Continental leur met la misère. Seuls deux ont demandé leur réintégration. Et Continental les a réintégrés sans salaire, donc je vois pas l'intérêt. Tous les points qu'on se bat depuis le début du PSE, bah, on a gagné sur tous les tableaux.
Et aujourd'hui, suite à la décision de justice du Conseil des Prud'hommes, il y a des indemnités qui sont envisagées pour, pour les 700 salariés quoi, qui se sont retournés contre la direction.
Tout à fait, ouais. Donc il y a des sommes qui vont de la plus petite 12 000 à un petit peu plus de 100 000. Que le mec qui s'est cassé les bras pendant 30 ans, c'est normal qu'il ait plus qu'un mec qui avait 5 ans d'ancienneté. C'est tout à fait normal. Donc les calculs ont été faits. Moi, je trouve que les calculs ont très bien été faits. Quoi. La juge qui a fait le dossier, elle a fait un travail remarquable. On a fait un bref calcul. Hein, c'est à peu près la totalité des dossiers. C'est à peu près 27-28 millions d'euros. Plus, que je trouverais scandaleux qu'ils ne remboursent pas pour l'emploi, étant donné qu'ils ont fermé une usine qui ne devait pas la fermer. Donc ils doivent rembourser 6 mois d'allocation Pôle emploi à chaque employé qui ont fait appel. Et puis après, bon, le remboursement, ça c'est 200 euros, c'est ce que les gens ont mis dans la procédure.
Nous affirmons le refus de la fermeture du site Continental.
Continental, les pneus qui vont vous faire aimer votre voiture.
C'est encore pire que ça, c'est-à-dire que nous, en tant que salariés protégés, on avait été licenciés par l'inspection du travail, qui validait le motif économique, l'inspection du travail, déjà, premièrement. Et donc, on avait fait un recours au ministre, M. Sapin, et M. Sapin, ministre du Travail, a validé le motif économique de la fermeture de l'usine et a confirmé notre licenciement. Et c'est pour ça que ça nous donne encore plus de force pour leur rentrer dedans encore plus pour les 500 personnes qui sont sur le carreau. Et parce que là, tout est prouvé qu'il n'y a jamais eu de raison économique et le combat continue pour pas moins de 500 personnes sur le carreau. Et ça, Continental doit assumer la casse sociale. Donc on continue à se battre. Le plan social de Clairoy va coûter très très cher à Continental. Ils se plaignaient déjà que c'était le plan social le plus cher de Continental, parce que Continental, c'est les spécialistes des fermetures d'usines. Hein. Le problème, c'est qu'ils sont tombés sur un os à Clairoy, et on s'est battu. Et là, c'est le plan social le plus cher de l'histoire de Continental. Et j'espère que les gens, s'ils ferment encore des boîtes, vont relever la tête comme nous, et vont leur coûter encore plus cher. Nous, de toute façon, tout ce qu'il y a eu d'avancée, tout ce qu'il y a eu de négociation, c'est même plus syndical, parce que le combat, c'est le comité de lutte. Le comité de lutte n'est rien sans M. Roland Spirko aussi, hein, qui est notre mentor, notre... voilà. Les gens peuvent se mettre bien dans la tête que tout ce qu'ils ont à l'heure actuelle, c'est grâce à un bonhomme, c'est Roland Spirko. Que dire de Roland? C'est celui qui avait réglé le gros conflit de chaussons. Roland a une expérience des conflits sociaux exceptionnelle. C'est Xavier qui l'appelait au secours quand ils annonçaient la fermeture.
Xavier Mathieu, d'accord.
Ouais, qui l'avait appelé au secours. Et c'est lui qui a organisé les comités de lutte, les réunions, tout. De toute façon, le fer de lance de notre combat, c'est lui qui a tout amené.
1120 travailleurs décidés peuvent faire bouger les choses. Et vous les avez fait bouger. Ouais.
Faire une pression sur Continental. Arriver à rassembler tout le monde. Faire 1400, ça crée un problème social et politique. Faire pression sur l'État. Pour obtenir quoi? Faire reculer le plus possible les dates de licenciement. Obtenir une indemnisation la plus large possible. Et le maximum de garanties.
Le livre,
Xavier.
Salut.
Ah, Michel.
Les Contis gagnent une bataille, pas la guerre.
Les nouvelles sont bonnes, Xavier.
Quel journal de merde, quand même, l'Oise Hebdo. Et regarde. Écoute bien.
Ah, bah, il y a ta photo.
Ensuite, le charismatique Xavier Mathieu, pour ne pas rompre avec cette habitude, a hurlé dans le micro Gérard, appelant une réponse de la foule et les Contis de faire écho de cœur. Enculé.
Pour mémoire, le Gérard en question est Monsieur Forzi, ancien directeur de l'usine Continental. Le mec, ils nous ont suivis pendant 5 ans, ils savent pas que ça n'a rien à voir avec lui. C'est Louis Forzi, que Gérard qui s'appelle Gérard, qui s'appelle François Gérard. Voilà, c'est vraiment des...
Voilà. On s'est fait berner avec les lois de Sarkozy, et ben Sarkozy, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités, une bonne fois pour toutes. On n'ira pas au chômage. On n'ira rien.
Et alors ? C'est pas vrai.
On est dégoûtés, les gars. On est dégoûtés. On est perdu.
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. Est-ce que vous regrettez ces violences ?
Vous plaisantez, j'espère.
On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir ?
J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère, et la colère, faut qu'elle s'exprime. Il y a plus de 1000 familles qui vont être à la rue, qui vont crever dans 23 mois avec plus rien, qui vont être obligées de vendre leur baraque. Il faut que tous que vous compreniez ça.
Merci, monsieur Mathieu.
On ne veut pas crever.
Merci, monsieur Mathieu, d'avoir été en direct avec nous. Un mot encore, il y a 10 minutes tout juste, Luc Châtel, secrétaire d'État à l'Industrie, proposait ces discussions tripartites après les événements donc de cet après-midi. Merci, monsieur Mathieu.
Luc Châtel vient d'annoncer qu'il était pour organiser la tripartite qu'on demande depuis le début.
C'est temps.
À 3h moins 10, il n'était pas d'accord. À 8h du soir, il est d'accord.
Faut broyer pour être entendu, c'est tout.
Vous avez entendu ?
Aucune image floutée sur TF1. Toutes les images sont à découvert.
Si au niveau des journalistes, vous nous avez porté du tort, il n'y en a plus un qui foutra un pied ici.
Attendez, vous avez vu nous les images ? Vous entendez,
non,
vous voyez
pas ?
Non,
je parle de TF1.
De toute façon, moi je vais dire, je suis fier de ce qu'on a fait, j'ai pas peur de montrer ma gueule, j'en ai rien à cirer.
Voilà des extraits de la saga des Conti, le film de Jérôme Palto, sur cette histoire avec la fameuse altercation. Il sera un petit moment d'histoire, espérons-le, faisons tout pour ça. L'histoire de notre vie d'aujourd'hui, notre société d'aujourd'hui, ce fossé entre le monde des médias et les luttes sociales, les désastres sociaux auxquels nous continuons d'assister avec ce répit, soudain, cette victoire qui vient trop tard, cette amère victoire pour les Conti. Et nous allons retrouver le charismatique Xavier Mathieu qui, lui aussi, revient souvent voir les copains au bon coin.
Xavier Mathieu, là, au comptoir, chez Jackie, au bon coin. Hein, c'est ton bistrot, un peu, ici, non ?
Ouais, c'est ma seconde famille, ici. Quand t'es les moments des trous dans ta vie, où t'es pas bien, où je suis toujours venu ici, moi. Je venais manger là, je retrouvais mes potes, et on a besoin d'endroits comme ça, de repères. Je pense que c'est important, là. Cet endroit est très important. Puis Jackie, Valérie, c'est des gens formidables. Des gens qui se sont investis dans la lutte, même des fois bien plus que certains Conti qui ne se sont même pas engagés, ou très peu. C'est des gens qui se sont engagés jusqu'au bout et toujours aujourd'hui. Voilà, c'est des moteurs.
Alors ça a été le QG un peu, hein, pendant les années de lutte, hein, parce que ça se chiffre en années maintenant, hein, c'est quasiment 4 ans de lutte. Hein.
Ouais, et puis le 11 mars, ouais, ça fait plus de 4 ans, c'est incroyable. Puis en fait, quand tu passes à côté de cette usine, là, quand tu arrives sur la rocade là-haut, tu vois ce champignon Continental, ça fait toujours... C'est toujours pareil, ça te fait toujours un pincement. Ouais, c'est quand même des années. Enfin, moi, j'ai passé 25 ans dans cette boîte. Il y en a qui ont passé 30 ans, il y en a qui ont passé... Sur 25 ans, c'était un tiers de ma vie. 8 heures par jour, 5 jours par semaine. La nuit, le matin, l'après-midi. Ouais, c'est...
Alors, là, dernièrement, c'était vendredi 30 août, les prud'hommes ont invalidé le licenciement des ex de Conti de Clairoy. Donc toi, ça t'étonne pas, quoi.
Non, ça m'étonne pas, dans le sens où nous, on savait très bien que cette usine, elle était rentable, qu'ils avaient profité de la crise pour fermer. On sait très bien qu'ils se sont comportés avec cette boîte comme toutes les boîtes que j'ai rencontrées. Ça, c'était les Philips, Dreux, les New Fabrice, les Molex. Ils se sont comportés de la même façon. L'année qui a précédé la fermeture de cette usine, ils cassent les carnets de commandes, ils font exprès de faire baisser la production. Des machines qui marchent pas, on les répare pas, on les laisse se pourrir pour justement dégrader la production. Et... Mais avec Continental, ça n'a même pas marché. Parce qu'ils ont tellement fait de bénéfices. Ils ont même pas pu fracturer la production parce qu'il y avait trop de demandes. Il y avait jamais la production à la baisser. Même aujourd'hui, nous, on a appris par un cadre intérieur de l'entreprise que depuis la fermeture de l'usine, ils ont refusé la vente de 5 millions de pneus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu les produire. à cause de, justement de la fermeture de Clairoix. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir le faire faire en Roumanie ou ailleurs. Mais après, ça reste un boulot manuel avec des gens qui sont qualifiés, avec une expérience monstrueuse. Et il y a des choses que tu peux pas envoyer dans un autre pays et faire faire du jour au lendemain. Continental, c'est 70 ans d'expérience de pneus. C'était Uni Royal, c'est des gens qui ont travaillé pendant des années, qui ont une expérience. Et ça faut pas croire. Il y a des choses qu'on peut changer du jour au lendemain, qu'on peut avec de l'argent, mais il y a des choses qu'on n'achète pas parce que l'expérience, c'est la vie, quoi. Et Continental, c'était comme ça. Voilà, alors après, ça reste une victoire, mais en même temps, une victoire qui te laisse un sale goût dans la gorge, parce que l'usine, elle est fermée. Parce qu'en fait, c'est la politique du pollueur-payeur. En fait, si tu as du fric, tu peux fermer une boîte illégalement, faire ce que tu veux. Du moment que tu as du pognon pour payer, tu fais ce que tu veux. Et c'est malheureusement souvent le cas. Je pense que dans un cas comme ça, une vraie décision de justice, elle devrait être. Continental n'avait pas le droit de fermer cette boîte. On oblige Continental à continuer à verser les salaires des mecs jusqu'à ce qu'ils leur trouvent un travail ou qu'ils décident de rouvrir la boîte, qu'ils se démerdent. C'est illégal, quoi. On entend l'avocat de Continental qui dit « Oui, on a versé de l'argent aux ouvriers, ça a été le plus grand plan social, mais si tu tues le fils de ton voisin, c'est pas parce que tu vas te permettre de filer du pognon au père que tu vas dire « Attendez, faut pas me condamner pour l'avoir tué, moi j'ai donné plein d'argent à son père. » C'est pas ça la vie. Mais malheureusement, l'usine allait fermer. Et moi, j'ai croisé Montebourg dans les studios de France Inter. Et justement, je lui avais expliqué que la vraie loi, elle était là. C'est-à-dire qu'il faudrait donner la possibilité aux ouvriers de pouvoir contester le motif économique de leur licenciement avant d'être licenciés, pas après. Aujourd'hui, ça sert à quoi? L'usine, elle est fermée. Et ce qui te fait vraiment mal au cul, c'est de voir que, par exemple, dans le licenciement des délégués, ces deux ministres qui ont donné leur avis sur le motif économique, il y a eu Wörth. Moi, j'ai été licencié sous le régime de Wörth. Les trois derniers, l'été dernier, c'est Michel Sapin qui a donné la décision. Ministre de, enfin, je dirais gauche, j'ai du mal à dire gauche, qui fait un copier-coller de ce que Wörth avait fait. Je veux dire, déjà, là, surtout qu'ils étaient soi-disant avec nous pendant le conflit, Continental, c'était une délocalisation, c'était les premiers à le dire, le PS. Et dès qu'ils sont au pouvoir, ils font les mêmes constats que les autres. Ils servent les mêmes, les puissants. Ils sont là à leur service, de toute façon, on le sait. C'est un désastre. Ils ont mis une région carrément en désert. C'est un désert, voilà. Il y a des mecs au RSA, il y a un mec qui s'est jeté sur les rails là-bas. Il y a entre 250 et 300 divorces. C'est une catastrophe économique. Il y a entre 500 et 600 mecs encore à Pôle emploi.
Économique et social, quoi. Ouais.
Économique, social, et encore, on parle des 500-600 de Conti, mais c'est autour, le carnage autour. C'est les commerçants, c'est les sous-traitants, les petites boîtes qui fabriquaient les pièces pour Continental. C'est tout ça, c'est un désastre. C'est pas cher payé, quoi. Continental, c'est pas cher payé. Même s'ils sont obligés de payer ce qu'ils vont payer là, le fonds social, il va leur coûter combien? 300 millions d'euros. 300 millions d'euros, c'est le prix de l'usine neuve. Neuve. C'est le prix de cette usine. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? En deux ans, les deux ans qu'on suivit, ils ont fait 3 milliards de bénéfices. Mais combien de temps on va laisser faire ça, quoi? Combien de temps on va laisser des gens exploiter? Parce que le problème, il est l'exploitation de l'homme. Pourquoi les gens te parlent aujourd'hui, t'entends parler que de coût du travail? Mais c'est exactement le contraire. Le coût du travail, il n'est pas assez haut. Parce que ces mecs, avec l'argent créé par les salariés, tellement de richesses créées par les salariés, qui leur en donnent tellement peu, qu'après ils peuvent prendre cet argent et aller fabriquer des usines à l'étranger et les foutre dehors après. Le coût du travail, il n'est pas assez haut en France. Justement, on ne paye pas assez cher les ouvriers. L'argent, il n'est pas assez réparti au sein des ouvriers. C'est que pour les actionnaires, quoi. Tu te rends compte de ces choses-là, quoi. On te parle du coût du travail parce qu'on t'explique que toi, travailleur, tu coûtes de l'argent à ton patron. Mais c'est quand même incroyable d'accepter même qu'on te dise que tu coûtes à ton patron. Moi, je pensais que les milliards engrainés, les 6 milliards, c'était pas à cause des salariés, c'était grâce aux travailleurs, grâce à leur sueur, grâce à leur sang. Et on essaye aujourd'hui, dans les médias, on n'entend que ça, de parler que de coût du travail. Le seul coût du travail, c'est COUP, tu vois. Les gens qui se suicident, les harcèlements au boulot, les gens qui se retrouvent avec des maladies professionnelles, des gens qui meurent au travail, d'accidents de travail, des gens qui sont harcelés. C'est ça, les vrais coûts du travail. COUP, pas COUT. Non mais faut arrêter. On en arrive là, quoi. À faire culpabiliser les gens, quoi.
Et ceux qui relèvent la tête ou qui plient pas les chines, ils le payent cher, hein. Toi, ils t'ont réservé quand même un traitement de faveur, si j'ai bien compris.
Mais je peux même pas me permettre d'en parler parce que je suis pas le seul. Il y a 600 mecs qui ont ramassé autant que moi, peut-être même plus que moi, peut-être moi, avec tu vois, les débats, les machins, Oh, je sais pas si je vais m'en sortir, j'en sais rien, mais je peux même pas dire ça, quoi. J'aurais bien aimé, quoi, à la limite, qu'on soit les 3-4 qu'ont déglingué, qu'ont été là, que ceux-là ramassent, que les autres non, mais malheureusement, c'est pas le cas, quoi. On est beaucoup à avoir ramassé. Il y a encore 5 à 600 mecs. T'as 300 CDI, quoi. 300 CDI, point. Sur 1120. C'est un truc de malade, quoi. Sincèrement, c'est un truc que je ne comprends pas, parce que moi, je suis patron, demain, j'embauche des contis. Parce que faut quand même se rappeler que c'est des mecs en 2007 qui ont accepté de revenir à 40 heures payés 35, de perdre un tiers de leur prime de fin d'année, à la moitié de leur prime de vacances. Voilà, donc pour garder leur boîte, c'est-à-dire quand même des gens, pour un patron, on s'est fait insulter. Nous, à la CGT, on n'avait pas signé, mais à l'époque, on s'est fait insulter par la moitié des boîtes françaises en disant qu'on baissait notre froc, que c'est travailler plus pour gagner plus de Sarkozy, qu'on avait accepté ça. On s'est fait insulter par toute la France. Moi, j'ai eu l'humiliation de voir tous les mecs de l'UMP devant l'usine venir serrer la main des mecs pour leur dire merci d'avoir accepté de travailler plus pour gagner plus. Au bout du compte, les mecs, ils se battent, ils obtiennent ce qu'ils obtiennent, et les patrons disent « nous, on veut pas de conti ». Putain, mais... Pour un patron, c'est un exemple, un mec comme ça, qui accepte de perdre tout ce qu'il a perdu pour sauver sa boîte. Putain, c'était des héros pour les patrons à l'époque. Et aujourd'hui, on me dit qu'ils ne méritent pas de travailler. J'en sais rien, c'est... J'entends des trucs, mais des trucs de fou, quoi. Des gens qui disent, oui, mais à cause de Continental, à cause du jugement des prud'hommes, les patrons, c'est une mauvaise image des patrons. Non, mais je crois que la mauvaise image des patrons, c'est Continental qui la donne. C'est pas les ouvriers qui se font massacrer, virer illégalement et qui se plaignent et qui vont demander des dommages et intérêts. C'est pas ceux-là qui font du mal à l'image des patrons. Les seuls qui donnent une mauvaise image, c'est Continental, d'avoir fermé illégalement cette entreprise. C'est un truc de fou. Alors moi, Continental m'a réintégré. Je suis réintégré au sein de Continental sans salaire. Ils ont trouvé un nouveau statut, je suis réintégré sans salaire. Parce que c'est le chien qui se mord la queue, tu vois. Ils ne peuvent pas me remettre à mon poste dans l'usine parce que l'usine elle est fermée et qu'il n'y a plus de machine. Sauf que le tribunal administratif, lui, dit à Continental, vous n'aviez pas le droit de fermer cette usine et encore moins d'y enlever sa machine. Donc voilà, ils ne peuvent pas après Continental se servir du fait qu'il n'y a plus ma machine puisqu'ils n'avaient pas le droit de l'enlever. Alors ça tourne en rond. Bon, après, l'inspectrice du travail, normalement, doit faire un procès verbal contre les dirigeants de Continental pour délit d'entrave puisque normalement, ils doivent me réintégrer avec un salaire. Et je pense que les ouvriers de Continental, psychologiquement, ça leur fait du bien de pouvoir dire enfin Continental a été condamné. C'est la première fois qu'ils sont condamnés, la première fois qu'ils sont poursuivis en justice. Alors, les 7 pour la sous-préfecture, moi, le prélèvement ADN, alors là, on s'est fait traîner dans la boue du début jusqu'à la fin. Et par contre, les dirigeants de Continental, jamais. Et là, c'est quand même quelque chose psychologiquement qui est très, très important pour les gens, de pouvoir dire Continental a été condamné. Je pense que c'est assez important.
Si on n'obtient pas ce qu'on veut, on n'y revient pas.
Première victoire pour les Conti, merci. C'était un reportage d'Antoine Chao à Clermont. Merci à Jérôme Palto, le réalisateur du documentaire La Saga des Conti. Merci à Xavier Mathieu, Pierre Sommet, Valérie et Jackie du bar Au Bon Coin. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Et vous pouvez aussi réécouter cette émission sur le site là-bas.org ou aller faire un tour sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Ludovic Asselot et Arnaud Caillé, c'est Jérôme Chélius et Franck Adhérère qui ont réalisé cette émission préparée avec Pierre-Yves Bulteau. Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37. On se retrouve non pas demain vendredi mais lundi à 15h, vous le savez, et surtout n'oubliez pas, samedi, la base si j'y suis sera présent à la fête de l'humanité de 17h à 18h30, rendez-vous au studio de Radio France avec les Pinsons Charlot, les Zebda, avec Jean Jaurès lui-même, enfin du moins tel que Charles Sylvestre et d'autres le voient, les grandes bouches et des surprises. Voilà, donc à demain, à samedi, à la fête de l'UMA à 17h et à lundi pour la basse, j'y suis. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Qu'est-ce qui se passe?
Bah, c'est les 50 ans de France Culture.
Alors, qu'est-ce qu'on dit?
Bah, on dit Yafoy.
Yafoy, ça veut dire bon anniversaire?
Ouais.
En quoi?
En ivoirien. Yafoy.
Yafoy.
Que la fête soit bonne, tout ce qui est positif, en fait.
Bon, oh, bah, super.
Voilà.
Yafoy. Bonjour à tous et bienvenue au Palais de Tokyo, où c'est la fête, puisque, voilà, on vient de le dire en ivoirien, enfin presque, France Culture a 50 ans. Là, il y a deux cabines mauves, et sur une des poignées, il est écrit « Occupé ». Qu'est-ce qui se passe dans cette cabine, madame ?
Il se passe des confessions, des confidences, des secrets.
Et qui vient se confesser chez vous ?
Les auditeurs de France Culture et les artisans aussi, les gens qui font la radio France Culture.
Vous venez de vous confesser, mademoiselle ?
Oui, je viens de me confesser.
Vous pouvez m'en donner une petite part de votre confession en sachant que ça va être sur Inter, quoi, donc...
Donc ça va, ça fait pas concurrence. Bah, une petite partie de ma confession, c'était comment j'ai découvert France Culture. Une nuit, en me faisant réveiller par un papillon. Et comment ça m'a fait découvrir Colette et Jean Cocteau. Et voilà, et que pour moi, France Culture, c'était une sorte de doudou philosophe, en fait.
Vous aviez quel âge quand vous avez découvert France Culture ?
17, 18 ans, mais je pense que je l'écoutais avant inconsciemment, via mes parents, ou je sais pas.
C'est mieux que France Inter, non ?
Ah non, France Inter, c'est beaucoup plus vivant que France Culture.
Mais alors, ça veut dire que vous avez déjà écouté France Culture ?
Oui, ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé.
Ah bah voilà, donc vous pouvez vous confesser.
Mais quand on se confesse, c'est qu'on a fait quelque chose de pas bien, non ?
Pas forcément, ça peut être un plaisir intense qu'on confesse parce que ça nous dépasse, ça déborde.
Et votre prénom ?
Éléonore.
Et vous, votre prénom ?
Pauline.
Je vous laisse en confession, il y a quelqu'un dans le confessionnal.
Deux personnes.
Ouh là là, ouais. Bon courage. Et vous faites quoi derrière le confessionnal ?
Donc Pauline Maucor recueille les témoignages dans le confessionnal et moi je suis Julie Béressy, je monte les sons qu'on a diffusés au cours de la nuit précédente à l'antenne et qu'on diffuse tout au long de la journée sur le site internet, sur Twitter, et on en fera également un documentaire pour la case sur les docs.
Bon, je vous laisse travailler parce qu'il y a quelqu'un dans le confessionnal.
Voilà, exactement. Je retourne à mon montage.
Je t'ai pas demandé ton prénom, c'est ?
Faïsa Poivre d'Arvor.
T'es la fille du directeur ?
Oui.
Aïe, 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 aïe. T'écoutes France Culture toute la journée chez toi ? C'est obligé ou est-ce que t'entends, t'as le droit de mettre France Inter ?
Bah, j'écoute plutôt de la musique. Bien sûr, j'écoute celui de mon père, mais...
Mais en cachette, parfois, tu mets d'autres radios ?
Exactement.
Et ils tapent pas sur les doigts ?
Pas du tout.
Non.
Enfin, à la maison, on écoute ce qu'on veut, on est libre de penser et tout.
Ah, vous êtes libre, tu me rassures, hein. J'ai eu peur que ce soit France Culture matin, midi et soir.
Non.
Obligatoire.
Bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce que vous avez avec Marcel Proust ?
Écoutez, je sais pas, ça m'a pris il y a 30 ans à peu près et ça dure toujours.
Et alors, en quoi ça consiste ?
Eh bien, j'aime entendre lire à la recherche du temps perdu. C'est quelque chose qui me procure d'immenses plaisirs, d'incommensurables plaisirs. Et donc, je le fais dans un film, puisque c'est un film que j'ai commencé il y a 20 ans et que je finirai dans 30, 40, 50 ans, enfin, si Dieu me prête vie.
Il durera combien de temps, votre film ?
Eh bien, pour l'instant, il dure 105 heures. Aujourd'hui, je suis dans Sodome et Gomorre, mais il peut durer beaucoup plus, le double.
Mais alors, Véronique Aubuy, vous avez eu l'idée, pour les 50 ans de France Culture, d'enregistrer à la recherche du temps perdu par plein de gens qui ne sont pas des comédiens, c'est ça ?
Voilà, parce que c'est la même idée en fait que dans mon film. Par exemple, là, il y a ma fille de 9 ans qui va lire dans quelques minutes.
Ah oui, donc il faut aller l'écouter.
J'avais vu des scènes de voitures et entrées, les unes dans la salle de danse du casino et les autres chez le glacier, des jeunes femmes qui de loin m'avaient paru ravissantes.
J'étais dans une de ces périodes de la jeunesse, dépourvue d'un amour particulier, vacante, où partout, comme un amoureux, la femme dont il était pris, on désire, on cherche, on voit la beauté.
Tu as quel âge ?
9 ans.
Sur ta table de nuit, tu as La recherche du temps perdu ?
Oui, je l'ai, mais en BD.
En BD ? Ah, d'accord.
C'est pas la même chose.
Ah, voilà, monsieur le directeur de France Culture. France Inter s'intéresse à France Culture.
C'est adorable, c'est une bonne idée.
Hein,
mais nous aussi, d'ailleurs, on s'adresse à vous.
J'espère que vous viendrez pour notre anniversaire.
Ah bah absolument, on l'a fait un peu avant pour ne pas être écrasé par l'importance des célébrations.
Mais Vous êtes plus vieux ou plus jeune que France Inter ?
On est né en gros à peu près à la même moment, c'est-à-dire à l'automne 63. C'est pas à l'heure précise, c'est pas la date précise, donc quoi.
Oui, quand même, moi, j'aime bien que les choses soient précises. Mais alors, je trouve quelle drôle d'idée de faire une lecture de À la recherche du temps perdu pour fêter les 50 ans de France Culture.
Moi, je trouve formidable qu'il y ait 50 000 personnes qui soient là pour écouter la radio. Donc, La recherche du temps perdu, ça fait partie du patrimoine, donc c'est génial que, au lieu que ce soit réservé à des élites, ce soit des gens tout simples, normaux, comme vous et moi, qui fassent des lectures spontanées, qui ont répété toute la nuit. Voilà, je vous conseille de bien les écouter, parce que ça va passer en plus sur France Culture pendant deux nuits de suite.
Mais j'imagine. Mais vous auriez pu prendre Le Temps retrouvé, ou la première œuvre de Marcel Proust, vous la connaissez, Les plaisirs et les jours.
Oui.
Ça aurait été bien aussi.
Non,
ça,
oui,
France Culture, c'est un peu ça.
Quand même. Mais écoutez, essayez sur France Inter, hein, pas tout. Un temps de pochon, c'est terminé pour...
Aujourd'hui.
Aujourd'hui, on se retrouve lundi. Voilà.
Merci, monsieur le directeur.
Je vous en prie, monsieur
le directeur. Et bon anniversaire.
Merci beaucoup, c'est sympa.
Un temps de pochon a été réalisé par Véronique Barnet.
Viva l'opéra, la saison d'opéra filmée sur les plus grandes scènes lyriques, reprend au cinéma à partir du 19 septembre. Nabucco à Milan, Così fan tutte à Salzbourg, Rigoletto à Aix-en-Provence, La fille du régiment à Vienne, et aussi 7 spectacles en direct de l'Opéra National de Paris. Toutes les infos sur ugc.fr et francemusique.fr. France Musique, une radio de Radio France.
Bienvenue au Havre pour la chronique Écho du jour où nous observons des mouvements inattendus. Les valeurs philanthropiques font ce jour un bond insolite. L'altruisme remonte et la préoccupation pour la santé mondiale passe la barre record des 6000 points. Un coup dur pour la course au profit individuel.
L'économie change, changeons l'économie. France Inter, partenaire de la seconde édition du LH Forum. Rendez-vous au Havre du 25 au 27 septembre et découvrez les projets incroyables d'intervenants du monde entier. Une initiative du groupe Planète Finance. Retrouvez le LH Forum dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire de la Fête de l'Humain, les 13, 14 et 15 septembre.
Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ?
3 jours d'une grande fête populaire et le rendez-vous incontournable de la rentrée. Plus de 80 pays représentés, sans débat, une cinquantaine de concerts avec M, Archive, Assaf Avidan, Fefe, Trio, l'Orchestre National de France et bien d'autres. Retrouvez la Fête de l'Huma dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité, Laetitia Gaillet.
Dans moins d'une demi-heure maintenant, les chefs de la diplomatie russe et américain seront assis l'un en face de l'autre avec à leur côté les spécialistes de l'armement chimique. Le premier round des négociations a lieu à Genève en Suisse. Il s'agit de voir comment on peut contrôler l'arsenal chimique syrien et le détruire sous supervision de la communauté internationale. La proposition vient de la Russie et Bachar el-Assad y répond favorablement à cause de Moscou. Le président syrien le dit aujourd'hui dans une interview accordée à la télé russe. Les menaces des États-Unis n'ont pas, dit-il, influé sur cette décision. Pour un peu plus de contrôle, le gouvernement égyptien, dont l'homme fort est un militaire, a décidé aujourd'hui de prolonger l'état d'urgence de 2 mois dans le pays. Le Chili se réveille après une nuit de violence. 42 policiers blessés et 264 personnes arrêtées. Hier soir à Santiago du Chili et dans d'autres villes du pays, de violentes manifestations les ont opposées à l'occasion de la commémoration du 40e anniversaire du coup d'État contre Salvador Allende. Le bilan donné par les autorités chiliennes ne précise pas le nombre de blessés parmi les manifestants. En France, des centaines d'éleveurs et des salariés des filières porcines et avicoles sont actuellement réunis à Rennes. Ils se sont donné rendez-vous au Space, le salon international de l'élevage à Rennes. Donc, ils attendent l'arrivée de Jean-Marc Ayrault. Ils réclament des mesures pour leur filière en crise. Le Premier ministre doit prononcer un discours d'ici une demi-heure. Plusieurs syndicalistes CGT pénitentiaires ont bloqué aujourd'hui l'entrée de la maison d'arrêt de Sarreguemines en Moselle. Ils protestaient contre la surpopulation carcérale et le manque de personnel. Ils dénoncent aussi la gestion de la prison par son directeur. C'est une étude de l'Union nationale des associations familiales qui le dit aujourd'hui. Les pères perçoivent l'idée d'un congé parental de 6 mois comme un risque majeur dans leur vie professionnelle. L'enquête a été menée en juillet dernier auprès d'un groupe de 4 parents, totalisant 24 pères de différents milieux sociaux et origines géographiques. Le projet de loi sur l'égalité homme-femme prévoit en effet une réforme du congé parental afin d'inciter davantage les pères à le prendre. À partir du 1er juillet prochain, les parents d'un seul enfant qui ont aujourd'hui droit à 6 mois de congé pourront prendre 6 mois de plus à condition d'expédition que le second parent en bénéficie. Pour deux enfants, la durée du congé restera de 3 ans, à condition, là encore, que 6 mois soient pris en compte par le second parent. Sinon, le congé parental sera raccourci à 2 ans et demi. Le ministère de la Défense réagit aujourd'hui aux photos de soldats faisant un geste antisémite, notamment devant une synagogue. Ce comportement est inacceptable. Il porte atteinte à l'image des armées. Mardi, déjà, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, avait réclamé des sanctions contre les deux militaires en question. Les émissions de gaz à effet de serre des 500 plus grandes entreprises mondiales ont reculé de 14% en 4 ans. Mais dans le même temps, selon une étude publiée aujourd'hui par une organisation indépendante spécialisée dans les émissions de CO2, les 50 plus gros émetteurs continuent à augmenter leurs émissions. Et ce sont elles qui ont le plus gros impact sur la planète. Parmi elles, on retrouve essentiellement des pétroliers, des cimentiers ou encore des groupes métallurgiques. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Tous les soirs, à partir de 21h,
rock, pop, électro, R&B,
les soirées musicales d'Inter.
Hip-hop, garage, grime, metal, bass music, new
du lundi au jeudi,
cosmic fantasy.
Retrouvez Barbara Carlotti.
Un voyage cosmique dans l'hyperespace de la musique.
Wave, no wave, chill
à 22h, Aurélie Sfez.
Avec vous, Baptiste Etchegaray.
Et oui,
techno.
Des comédiens qui chuchotent à l'oreille des musiciens,
house.
Des artistes qui font l'amour avec des artistes,
ghetto house.
Parce qu'on est ouvert la nuit.
Grunge, black metal, Norwegian metal.
À 23h15,
on n'oublie pas, hein, là,
Laura Lichmann.
Du nouveau de tous les styles, tous les genres, tous les styles, tous les genres, tous les styles.
Et 2 heures d'addiction le vendredi à 21h avec Laurence Pierre.
Les soirées musicales.
Retrouvez les soirées musicales d'Inter.
Les programmes.
Les rendez-vous.
Sur franceinter.fr.
France Inter.
La voix est libre.
Il y a aussi de la musique l'après-midi sur France Inter. C'était avec vous, Frédéric Lodéon.
Merci beaucoup, Laetitia. Bonjour. Gaillet. Bonjour, on vous retrouve à 17h. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. J'ai le très grand plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Pierre Amoyal, extrêmement grand virtuose du violon. Bonjour Pierre.
Bonjour Frédéric.
Bon écoutez, je suis content, on se connaît depuis très longtemps, mais on va pas le cacher, mais en même temps vous m'émerveillez toujours parce que vous avez une carrière absolument superbe, une sonorité qui est absolument autant. Et puis vous avez joué avec les plus grands chefs, Herbert von Karajan, vous êtes toujours demandé par Myung-Hoon Chung, Charles Dutoit, Seiji Ozawa, Georges Prêtre, Simon Rattle, Roch Desvensky, etc., etc. Et puis, vous êtes à un moment de votre vie où vous consacrez pas mal à la jeunesse. On va parler de la Camerata de Lausanne, notamment, qui va nous occuper aujourd'hui des disques très, très passionnants, publiés chez Warner Classics. Et les engagements pour vous, bah, c'est depuis toujours. Vous avez commencé à 12 ans avec un premier prix au Conservatoire de Paris. À 17, vous êtes parti faire vos études à Los Angeles auprès du légendaire Yasha Heifetz. Et vous êtes là, resté pendant 5 ans. Ça n'a pas toujours été facile. Il était dur, le père Heifetz, non ?
Il était dur, oui. Je crois que le plus beau compliment qu'il m'ait fait un jour, c'est après avoir entendu une chaconne de Bach, il m'a dit « j'ai entendu pire ». Je suis rentré à la maison, j'ai pris mon oreiller et j'ai pleuré pendant 20 minutes.
Et puis, vous étiez enfermé dans une cave pour faire des gammes pendant voilà, des heures et des heures.
10 heures par jour. J'avais compris que sans les gammes en sol bémol majeur en dixième, le concerto de Beethoven, je n'y arriverais pas. Oui. Donc,
c'est du vice pur, parce que sol bémol, c'est difficile. En dixième, c'est un intervalle très grand, il faut écarter les doigts de la main gauche.
Voilà, donc j'ai dû souffrir pour arriver au concerto de Beethoven avec Heifetz.
Et puis maintenant, vous enseignez vous-même, vous avez de nombreux disciples à Lausanne. Et puis, tout récemment, vous avez été nommé à Salzbourg. Alors Salzbourg, c'est la ville de Mozart, évidemment, c'est un rêve. Et vous avez aussi des collègues, des musiciens autour de vous, des
oui,
professeurs.
Je pense que pour un musicien d'avoir accès à un établissement d'enseignement qui est une légende, être entouré de musiciens qui sont parmi les tout meilleurs du monde et pouvoir attirer aussi les plus grands talents dans cette ville magique, c'est le rêve d'un musicien et je suis très 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 heureux de recevoir ce cadeau.
Bah écoutez, pour les étudiants aussi, c'est un cadeau que vous soyez là-bas. Et puis on est fiers en tant que Français, évidemment, que vous représentiez notre pays. On va entendre tout de suite vos jeunes artistes de la Camerata de Lausanne dans la valse de la sérénade pour cordes en ut majeur de Tchaïkovski.
Thank you.